Bonjour Église Le Sentier, bonjour et bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous ce matin. On est content que vous soyez là et j'en profite pour souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas qui sont présents. Et oui, aujourd'hui le sujet va être de circonstances et va être question qu'on a tous besoin d'un père. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien j'aimerais remercier Lise Lalonde que vous avez vue à l'écran tout à l'heure, qui s'est donnée pendant des années. Qui s'est consacrée au ministère auprès des enfants. Élise, tu as été une boule d'énergie, tu es encore une boule d'énergie, mais merci pour ta contribution auprès des enfants, auprès des moniteurs, auprès de tous ceux qui se sont impliqués activement, directement et indirectement auprès des enfants. Les enfants et les parents ont certainement apprécié ton leadership, ta participation, ta contribution si précieuse. Puis je pourrais dire que tu n'as pas rayonné simplement au sein de l'Église Le Sentier, mais dans toute la francophonie. Et en d'autres mots, tu as été un beau cadeau. On est vraiment privilégiés de t'avoir eu ici, au milieu de nous, puis mettre tes dons au profit de ces enfants-là. Merci beaucoup pour ton leadership. Ça a été grandement apprécié. Puis on veut remercier également la famille Gibson, Greg et Marie-André, qui ont accepté de relever le défi et de participer, de contribuer par leurs dons, par leur expérience, par leur formation, à bâtir une nouvelle équipe, une équipe de gens d'expérience avec de nouvelles personnes qui vont s'ajouter pour continuer, pour être dans la continuité, avec des nouvelles idées, avec de nouveaux défis, mais à continuer ce ministère auprès des enfants. Merci d'avoir accepté de relever ce défi-là. Vous êtes équipés pour le faire. Et ce qui est spécial, c'est votre douceur, votre amour qui transpire. Vous transpirez l'amour. Et ça, c'est vraiment attirant, c'est vraiment inspirant. Merci beaucoup, Greg et Marie-André. Ceci étant dit, et moi, je suis vraiment encouragé par le fait que les Gibson ont accepté de relever ce défi-là. Mais j'aimerais qu'on puisse maintenant passer au thème d'aujourd'hui. On a tous besoin d'un père. Et on va voir qu'au travers de la lettre de Paul aux Éphésiens, que le rôle du père est un rôle important. Écoutez, la culture le crie et le chante. On a juste à penser au succès de Stroma, qui a été sorti en 2013, « Papa Outé ». Et dans ses paroles, dans les paroles de ce chant qui ont été écrites par Paul Van Haver, il va dire ceci: « Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Dites-moi d'où il vient, mon papa, enfin je saurai où je vais. » Ça parle du lien entre le fait de connaître son père puis de donner une direction. C'est incroyable, ça. Et vous savez, le père est vraiment important puis joue un rôle déterminant, puis malheureusement, il est manquant pour plusieurs enfants. En fait, il y a une étude qui a été menée au Québec entre 1998 et 2010, donc une étude qui s'est échelonnée sur une douzaine d'années, puis qui a révélé que le quart des élèves qui fréquentent la maternelle ont des parents séparés. Puis de ce nombre, ce quart d'élèves-là qui ont des parents séparés, bien, chez ces enfants qui ont des parents séparés, un enfant sur cinq ne voit jamais son père. Donc, on voit qu'il y a une carence d'une présence paternelle chez beaucoup d'enfants au Québec. Et ça nous montre une chose, c'est que le besoin d'un père est là. Le besoin d'un père est important, il est précieux. Guy Corneau, dans un livre qu'il a publié il y a quelques années, un livre à succès qui s'intitule « Père manquant, fils manqué ». Juste en mentionnant le nom, vous n'avez entendu parler, vous l'avez peut-être même lu. Il va dire une phrase assez percutante dans son livre. « Manquer de père, c'est manquer d'une colonne vertébrale. » Écoutez, la colonne vertébrale, c'est ce qui nous tient. En d'autres mots, ça veut dire « manquer de père, c'est manquer de tonus, c'est manquer d'assurance. » On ne peut pas se tenir s'il y a quelque chose de fondamental qui manque. Ça nous montre qu'on a besoin, on a tous besoin d'un père. L'Institut national de santé publique du Québec va renchérir en disant « La présence d'un père attentionné aide l'enfant, garçon ou fille, à être plus confiant et à réaliser son plein potentiel. Jouer un rôle actif auprès de votre enfant dès sa naissance contribue à créer un lien avec lui pour les années à venir. » Donc, une présence d'un père attentionné amène son enfant à être plus confiant, à réaliser son plein potentiel. Et ça a un impact, puis quand ce lien-là est bâti, eh bien, il est durable. Ça nous montre qu'on a besoin d'un père. On a tous besoin d'un père, de son approbation, de sa présence, de sa sagesse, de son expérience de vie. Parce que ça fait la différence dans nos vies. Et on a besoin d'une mère également, évidemment. Mais aujourd'hui, vu que c'est la fête des pères, on parle principalement des papas. Et c'est pour ça qu'on va voir au travers la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, une lettre qui était circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'elle était ronde, là. Ça veut dire que c'était une lettre qui devait circuler. Elle a été envoyée aux Éphésiens, mais elle était appelée à être copiée puis à circuler dans les autres églises qui étaient en implantation dans cette région-là pour que les thèmes qui étaient contenus dans cette lettre puissent être communiqués à toutes les églises pour être fortifiées, pour être encouragées, pour grandir dans la foi. Alors nous, ce qu'on va voir, c'est les parallèles entre Dieu le Père et ses enfants pour nous inspirer, nous les pères, à être encouragés dans notre rôle et notre vocation parce que nos enfants ont tous besoin d'un père. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, on s'en vient devant toi pour que tu nous rappelles, tu nous encourages que, un, on a besoin de toi, et deux, nos enfants ont besoin de nous en tant que papa. Merci de nous encourager, de nous fortifier et de nous rappeler combien on est précieux pour toi. Tu nous aimes abondamment et c'est bon que tu nous le rappelles. On en a besoin. On te remercie pour le bon papa que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1, on voit un des éléments de ce chapitre, c'est que Dieu le Père renforce notre identité en Jésus-Christ. On voit sous plusieurs appellations, en Christ, en lui, en son bien-aimé, qu'il y a des bénéfices, il y a des dividendes à être trouvé en Jésus-Christ. Et ça veut dire quoi être en Jésus-Christ? Bien, ça veut dire que lorsqu'on est sauvé, on fait partie de la grande famille des enfants de Dieu. Et c'est une place que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort à la croix et sa résurrection. Puis ce qui est intéressant, c'est que en ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en ayant accepté qu'il a pris notre place, qu'on a reconnu qu'il a pris notre place à la croix, qu'il a subi notre condamnation et qu'on reconnaît qu'il est le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul moyen par lequel on peut être sauvé, eh bien, on devient enfant de Dieu. On devient des enfants d'adoption, Éphésiens 1:5. Mais savez-vous quoi? Ce qui m'a touché particulièrement en revisitant ce texte, c'est qu'on est devenu des enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. C'est une réjouissance pour lui qu'on fasse partie de ses enfants, qu'on soit ses enfants. C'est une réjouissance pour lui. C'était pas seulement comme un travail qu'il a fait parce que c'est dans son rôle comme un ambulancier qui va venir sauver des vies dans des circonstances d'urgence, qu'il y a des gens qui ont des besoins immédiats puis ils doivent venir sauver des vies. Puis moi, je suis convaincu que la grande majorité des ambulanciers le font par plaisir et non pas par devoir. Mais une fois que leur travail est terminé, leur travail est terminé. Et Dieu ne nous a pas juste sauvés dans un moment, dire bon, ben ça fait partie de mon travail de sauver les gens, je vais les sauver. Bon, maintenant que ces fêtes sont sauvées, c'est fini, je retourne à mes occupations. Non! Dieu ici, il nous a sauvés selon le bon plaisir de sa volonté. En d'autres mots, ça, on fait partie des délices de sa vie. Ça fait partie des bons souvenirs de sa vie. Il est tellement content de nous avoir sauvés. Puis si on pouvait interviewer Dieu, par exemple, évidemment, ça ne se fait pas comme ça, là. Mais si on pouvait, là, rentons un peu là, dans le monde imaginaire, mais imaginons qu'on pouvait interviewer Dieu. Puis là, que l'intervieweur, il dit, « Bon, écoutez, pouvez-vous nous raconter un des grands moments de votre vie là, qui vous a fait le plus plaisir. Évidemment, il pourrait en compter des milliards de moments. Mais savez-vous quoi? Un des moments qui lui a fait plaisir, c'est de voir qu'on est devenu son enfant. Parce qu'on a été adopté selon le bon plaisir de sa volonté. Et ça, c'est précieux. C'est précieux. Dieu ne regrette pas d'avoir donné ce qu'il y a de plus précieux pour nous sauver, pour qu'on puisse devenir ses enfants. Il nous aime d'un amour éternel. Et ça, c'est rassurant et ça fait chaud au cœur. Eh bien, et c'est pour ça que nous, c'est important. Nos enfants ont besoin qu'on puisse leur faire sentir qu'ils sont précieux, qu'ils nous amènent de la joie. Et parfois, ça, c'est un défi pour nous parce que nos enfants ne sont pas parfaits et nous, on n'est pas parfaits comme Dieu est parfait. Mais c'est un domaine, par exemple, moi, dans ma vie, que je veux grandir. J'aime mes enfants, mais je veux qu'ils le sachent, je veux qu'ils puissent le savoir, je veux qu'ils puissent le goûter. Et des fois, en tant que père, on peut agir d'une manière où est-ce que nos enfants ne sont pas en mesure de détecter qu'il y a énormément d'amour derrière nos décisions, derrière nos actions, derrière nos paroles. Et c'est la même chose dans notre perception face à Dieu. Des fois, on ne comprend pas pourquoi il permet des choses, pourquoi il nous restreint sur certaines choses. On a la difficulté à discerner qu'il nous aime derrière ce qui se manifeste, derrière ce qu'il permet. Mais plus on va découvrir que Dieu nous aime, puis combien il nous aime d'un amour personnel, eh bien, plus ça va transformer nos vies. Il nous le montre. On le découvre de plus en plus. Et de la même manière, moi, je veux que mes enfants découvrent de plus en plus qu'ils sont aimés par moi, leur papa. Et savez-vous, tout ça, là, lorsque je préparais ce discours-là, je me disais, ce que j'ai envie de faire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, quand je vais rencontrer quelqu'un qui me connaît plus ou moins ou qui ne me connaît pas du tout, dans un concours de circonstances, parce que ça arrive, hein, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Puis, une des premières questions qu'on nous pose, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Mais savez-vous, je pourrais leur dire « Ben, je suis aumônier, je suis employé de l'Église, je suis un coach professionnel. » Mais j'ai envie de leur répondre « Je suis un papa. » « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Je suis un papa. » Puis leur montrer des photos de mes enfants pour montrer à ces gens-là qui ne me connaissent pas que je suis fier d'eux. Et vous allez dire, ouais, mais ce n'est pas un travail d'être papa. Non. Mais c'est simplement une façon de montrer que je suis fier d'eux, je suis fier de mes enfants. Et ça lance un signal à mes enfants que, hey, on a une place importante pour notre père. Et peu importe le moyen, nos enfants ont besoin de papa, qui ont besoin de sentir qui ont une place importante dans la vie de leur papa. Gary Caldwell, un des grands sociologues du Québec, nous a rappelé à un moment donné, il y a quelques années, il était en train de parler à une foule, puis il disait que la plus grande fierté d'un Québécois au début du 20e siècle, c'était de fonder une famille. Ce qu'il faisait, là, son travail, c'était secondaire, c'était pour faire vivre sa famille. Mais sa fierté, c'était de fonder une famille. Un jeune adulte avait hâte de se marier pour fonder une famille. Un homme qui fondait une famille était un homme fier. Et est-ce qu'on est fier d'avoir fondé une famille? Est-ce qu'on est fier de nos enfants? Est-ce qu'on les aime, nos enfants? C'est quelque chose qu'on est appelé à développer en tant que père, parce que nos enfants ont besoin de sentir cette fierté-là. Puis à l'image du Père céleste, eh bien, il nous a aimés malgré nos différences parce qu'il nous a réunis. Il nous a réunis. C'est spécial parce que Éphésiens 2 nous dit qu'il a intégré dans l'Église des enfants de Dieu qui étaient issus du peuple juif, puis des non-juifs. Il y avait une distinction entre les deux. Les deux, les Juifs qui avaient tout un héritage, des promesses, il y avait des miracles de Dieu dans l'histoire de ce peuple, eh bien, eux, il y a tout un historique. Mais comme on l'a vu dans l'Épître aux Hébreux, il y a plusieurs Juifs qui ont, qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, comme étant l'envoyé de Dieu promis par les prophètes. Et donc, mais il y en a un certain nombre de Juifs qui ont adhéré à la foi chrétienne. Mais le Seigneur a ouvert la porte aux non-Juifs. Et ça l'a fait, à certains moments, il y a eu certaines tensions dans certaines églises. Et là, Paul va indiquer, mais écoutez, vous avez deux parcours différents, mais je vous ai réunis. Et il fait mention de leur distinction, il fait mention du fait qu'ils sont différents. Mais il fait mention qu'ils sont unis ensemble et ils sont enfants de Dieu à part entière. Et ça nous montre qu'il n'y a pas une langue, il n'y a pas une nationalité, il n'y a pas une couleur de peau qui va changer notre statut devant Dieu. C'est lui qui nous a réunis et nous a réunis pour établir une paix entre nous et entre nous et lui. Et en même temps, il reconnaît nos particularités qui sont propres à chacun. Puis il nous invite à vivre en harmonie puis dans la complémentarité. De la même manière que les enfants ont besoin d'avoir un père qui va les aimer, mais les aimer dans leur particularité. Va les aimer tout autant, mais ils ont besoin de voir que leur père reconnaît que chacun de ses enfants est différent. Et c'est ce que le Seigneur nous fait sentir, nous fait connaître, nous fait goûter, qu'on est reçu sur le même pied d'égalité, puis on a tout accès à lui, à son amour, à sa compassion, à son pardon. Parce qu'il est un rédempteur, un père qui pardonne, qui fait grâce. Puis ce que ça nous montre, c'est qu'il nous connaît personnellement. On voit ça dans Éphésiens chapitre 3. Même s'il doit nous reprendre ou corriger à certains moments, son but n'est jamais de nous briser. Non, son but, c'est justement de travailler nos vies pour nous faire grandir en maturité. Puis ce qu'il veut, on le voit dans Éphésiens 3, 12, c'est nous inviter à s'approcher de lui en toute confiance. Il veut renforcer le lien de confiance. Pour lui, le lien de confiance est extrêmement important. Éphésiens 3, 12. Il veut être là pour nous fortifier puissamment. Puis au verset 16, ça dit dans notre être intérieur. Il veut nous bâtir de l'intérieur. L'intérieur, ça parle à la fois de notre identité, de notre conscience, de notre âme, de qui on est. Et ça nous montre une chose, c'est que quand on fortifie un enfant de l'intérieur, ça veut dire qu'on le connaît. On connaît ses limites, on connaît ses zones, ses capacités, on connaît ses zones de tension ou ses zones de sensibilité, c'est le mot que je cherchais, ses zones de sensibilité. Et ça, Dieu, le Seigneur, veut nous bâtir de l'intérieur. Puis il y a des choses à l'intérieur de nous qui sont brisées, mais il veut les guérir, les cicatriser pour nous bâtir de l'intérieur. Et le Père a un rôle à jouer là-dedans. On peut tellement être une source de sécurité, non seulement une sécurité matérielle, mais sécurité émotionnelle également. N'oubliez pas, un Père manquant, il n'y a pas de colonne vertébrale, mais quand la colonne vertébrale est là, tout se tient. Dans Éphésiens 4, on voit que, justement, il veut continuellement nous édifier. Il veut non seulement nous édifier sur une base personnelle, mais aussi qu'on puisse trouver notre place dans la grande famille de ses enfants, dans la grande famille de Dieu. Il veut nous équiper, nous former, nous éclairer, nous donner des fondements, parce qu'il veut que notre particularité fasse partie d'un tout. Il aime, puis il sait que notre identité trouve tout son sens dans le grand ensemble. Notre identité là, propre, il veut la fortifier, la renforcer, mais il veut qu'elle trouve son sens dans le grand ensemble. Il ne veut pas qu'on soit le plus petit. Il ne veut pas qu'on soit le plus moyen. Il ne veut pas qu'on soit le plus grand. Il veut qu'on trouve notre place, qu'on soit à notre place. Et c'est ça l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Puis il utilise l'Église pour nous amener à croître. Il utilise la famille pour nous amener à croître. Et c'est pour ça que pour nous inspirer, il nous a donné un exemple humain, vivant, son fils, l'héritier. Celui est Jésus qui nous invite à prendre part à son héritage. Puis l'exemple qu'il nous donne, c'est un exemple d'amour sacrificiel. Il nous montre que Dieu le Père a été prêt à donner ce qu'il y avait de plus précieux, ce qu'il y a de plus précieux pour notre bien-être, notre sécurité, notre croissance. Le bien-être, la sécurité puis la croissance de ses enfants. Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux, de ce qu'il y a de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, pour qu'on puisse croître. Puis nous, les pères, on est appelés à donner ce qu'on a de plus précieux parce que nos enfants ont besoin de croître avec un père qui est présent puis qui est concerné. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 6, notre Père nous apprend à être obéissant et à avoir le côté avantageux des limites qui parfois nous sont imposées ou qui sont là, qui sont présentes pour nous amener justement à grandir dans la bonne direction. Donc, il nous prépare, nous équipe surtout pour les défis, les luttes, les tentations puis les épreuves. On a besoin d'un Père qui nous équipe, on a besoin d'un Père qui est là, qui nous sécurise, pour qu'on soit libre de vivre puis d'exprimer notre foi. Parce que nos croyances, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. On a besoin d'un Père comme lui parce qu'il nous inspire au niveau de la paix, de l'amour et de la foi. C'est ça qu'on voit au verset 23 du chapitre 6, Éphésiens 6, 23. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, et ce qui est intéressant, c'est que le mot paix vient avant l'amour, vient avant la foi. Pourquoi? Parce que si j'ai la paix avec Dieu, j'ai accès à son amour. Et plus je découvre qu'il m'aime, plus ma confiance en lui grandit. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un avec qui je ne suis pas en paix et en quelqu'un que je ne suis pas convaincu de son amour pour moi. Si je suis en paix avec Dieu, puis que j'apprends à découvrir qu'il m'aime, ma confiance en lui va grandir. Mais ça commence par la paix. Et quand il nous sauve, quand on devient enfant de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il rétablit la paix. Il établit la paix, il rétablit la paix. Et sur la base de cette paix-là, puisqu'il y a une paix entre Dieu, mon Père et moi, j'ai accès à lui, je découvre qu'il m'aime, et plus je découvre qu'il m'aime, plus ma foi en lui, plus ma confiance en lui, plus ma confiance en ses paroles, en ses conseils, en son jugement grandit. Et c'est pour ça qu'on le voit dans Éphésiens 2, 17, qu'il est un artisan de paix, et c'est sur cette base-là que je suis accepté. Lui, ce qu'il a voulu établir, c'est cette paix entre lui et moi, entre lui et ses enfants. Et c'est ce que Dieu veut, que cette paix règne dans nos foyers pour qu'on puisse être réceptif à son amour. Quand il y a une paix relationnelle, eh bien, l'amour est beaucoup plus facile à communiquer. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas en paix avec Dieu aujourd'hui? Va déterminer où est-ce que je dois me réconcilier avec lui. Je dois avouer que je me suis éloigné de lui. Je dois avouer que j'ai peut-être justement pas suffisamment confiance en lui ou je ne crois pas en son amour et je dois aller le voir et lui partager ça. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse goûter cette paix avec lui, goûter son amour et qu'on puisse lui faire de plus en plus confiance. Et donc, c'est pour ça que plus je vais découvrir que j'ai la paix avec lui, que cette paix, elle est accessible, elle est disponible, plus je vais découvrir que je suis aimé par lui, plus ma foi en sa parole, ma confiance en sa parole, en ses promesses, en ses conseils, eh bien, vont prendre de la place dans ma vie. Ma foi va grandir, va croître et va être établie sur un fondement solide. J'ai besoin d'un père, parce que si je suis en paix avec lui, eh bien, je vais me sentir aimé, et je vais de plus en plus lui faire confiance. Et je vais prendre de l'assurance dans mon identité, dans ce qui me distingue, puis dans ce qui me qualifie. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un père qui me connaît personnellement, d'un père qui sait ce que j'ai besoin. Puis, c'est là que je vais être en sécurité dans mes défis, parce que en étant en pleine confiance, en ayant confiance en lui, eh bien, je vais être rassuré par son amour. Et en terminant, C'est pas toujours être facile d'être papa, puis surtout si on est dans le jeu de la comparaison, on se compare à Dieu le Père qui est parfait. Moi, si je me compare à Dieu le Père qui est parfait, je suis loin d'être parfait, mais je veux grandir dans mon rôle de père. Parce que il n'y a pas de baccalauréat pour les papas. Dire bon, ben. Et même dans la chanson Papaouté que j'ai citée préalablement au début du discours, il y a une strophe qui dit « Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. » Mais on a un modèle, on a un exemple, on a de bons exemples au travers de cette lettre aux Éphésiens. Et laissons-nous inspirer par le fait qu'on est en paix avec notre Père. On est en paix avec un Père qui nous aime et qui veut établir un lien de confiance parce qu'il veut le mieux pour notre vie. On a besoin de ce genre de Père-là. Nos enfants ont besoin de voir leur papa grandir dans cette paix, dans cet amour et dans cette confiance qui vient de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Père, quand je pense à une autre chanson, celle que Linda Lemay a chantée il y a plusieurs années, je pense à un segment de sa chanson. Elle parle de sa mère, puis elle dit « Comment t'as pu trouver un homme qui n'a pas peur, qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur? » Qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur. Et c'est toi, ça. Tout ce que tu promets, tu l'accomplis. Tu es digne de confiance. Tu n'es pas comme un homme pour mentir. Tu fais ce que tu dis. Tu accomplis tes promesses. On peut te faire confiance parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci que tu nous as accordé la paix en Jésus-Christ. On est en paix. Merci que tu veux nous révéler, nous dévoiler, nous faire connaître, goûter ton amour pour que notre confiance en toi puisse grandir. Puisses-tu nous aussi nous façonner, nous les papas, pour devenir des exemples inspirants et être utilisé par toi auprès de nos enfants qui ont tellement besoin de nous, de notre présence, de ce que tu nous as donné pour les aider dans leur identité, dans leur développement, dans leur croissance, pour qu'ils puissent à leur tour devenir des hommes et des femmes inspirants. Je te le demande dans le nom de Jésus, comme un cadeau, comme une grâce. Amen. Que Dieu vous fasse du bien, papa, que Dieu vous fasse du bien, Église Le Sentier, et que Dieu vous fasse connaître, à vous tous qui êtes joints à nous par la technologie, que Dieu vous fasse connaître que vous pouvez avoir la paix avec lui au travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Merci, bonne semaine. Au revoir.